Salut à tous, Championne du Monde revient après une petite pause estivale avec plusieurs épisodes rediff avant une nouvelle saison remplie d'invités extraordinaires et qui sait, peut-être même de nouveaux formats podcast. Et pour cette première rediff, on voulait vous proposer un épisode sorti il y a tout pile 2 ans et qui nous a beaucoup marqué, celui de la patineuse Gabriela Papadakis. Gabriela, c'est le talent, l'humour et l'engagement dans une seule et même personne. C'est une femme lumineuse qui vous marque à tout jamais quand vous avez la chance de la côtoyer. Il y a 2 ans, donc, Gabriela s'était livrée sans détour dans cette interview sur les sacrifices que comporte son sport et plus globalement sur sa vision de la vie. On espère que vous prendrez plaisir à découvrir ou redécouvrir cette interview marquante et je vous dis à très vite pour plein de nouveautés.
Mes sens, c'est une partie de mon corps qui est mon instrument, qui est un corps d'athlète, de sportive. C'est pas un corps sexuel, donc pour moi, qu'on sexualise ça, ça avait comme aucun rapport.
Salut, c'est Cléo et bienvenue dans Championne du Monde, le podcast de toutes les femmes qui vivent le sport aujourd'hui. Pongistes professionnels, aficionados du stade Vélodrome, médecins du sport ou encore vos mères fans de Kevin Mayer, dans chaque épisode, partez à la rencontre de ces femmes passionnantes qui sont plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de la saison 2. Et pour cette nouvelle saison, nous vous réservons plein de surprises et de nouveautés, à commencer par cet épisode 2 fois plus long que d'habitude, mais notre invité le vaut bien. 4 fois championne du monde, 5 fois championne d'Europe et vice-championne olympique, nous avons la chance d'avoir pour marraine de cette nouvelle saison la patineuse Gabriela Papadakis. Nous l'avons rencontrée lors d'un de ses rares passages à Paris, elle qui s'entraîne avec son partenaire Guillaume Cizeron depuis plusieurs années à Montréal, et malgré l'heure matinale du rendez-vous, nous avons quasiment refait le monde. Je suis d'autant plus fière que Gabriela Papadakis soit la marraine de cette saison, car au-delà d'être une sportive hors du commun et une véritable artiste, elle fait partie de ces modèles qui n'ont pas peur d'exprimer leur point de vue, de défendre leurs idées et de prendre position sur des sujets tels que le féminisme, le sexisme ou encore l'homosexualité dans le sport. Gabriela est la parfaite incarnation de sa génération, libre et passionnée, et c'est de gens comme elle dont le sport et la société en général ont cruellement besoin. Pour le dire simplement, je l'aime d'amour et je vous laisse découvrir sans plus tarder le contenu de cet échange intense qui, on l'espère, vous fera réfléchir. Salut Gabriela.
Bonjour.
Merci beaucoup de participer, d'avoir accepté de participer du coup au podcast.
Ben non, ça me fait plaisir.
Alors Gabriela, bon pour ceux qui ne te connaissent pas, j'ose espérer qu'il y en a très peu du coup qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas. T'as 24 ans, tu fais du patinage artistique, plus précisément de la danse sur glace.
Effectivement.
Avec ton partenaire de choc, Guillaume Cizeron. Pour faire un petit rappel de votre palmarès, du coup, vous êtes 5 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde et vice-champion olympique.
C'est ça.
Ouais. Donc un beau parcours quand même.
Ouais. Non, c'est vrai. En fait, c'est assez difficile de s'en rendre compte maintenant parce que on est toujours, on va toujours vers l'avenir, donc ouais. On est toujours focus sur ce qui va arriver, puis les médailles qu'on veut aller chercher, etc. Donc je pense que...
Tu ne te satisfais pas de celle qui...
Pas vraiment, non. Je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait, évidemment, mais je pense que je me poserai vraiment pour réaliser, puis pour profiter de ça une fois que j'aurai fini, puis une fois que je pourrai regarder ça vers l'arrière, en fait.
Ouais. Et du coup, première question, d'aussi loin que tu te souviennes, t'as toujours voulu devenir championne de patinage?
Pas du tout.
Ok. Tu voulais faire quoi?
Non, en fait, c'est marrant parce que moi, le patinage, c'est ma mère qui m'a mis dedans quand j'avais 4 ans. Et puis, j'étais dedans même avant parce qu'elle était entraîneur à Clermont-Ferrand.
Ouais.
Et elle a eu, je pense qu'elle a eu ses contractions alors qu'elle était sur la glace. C'est-à-dire, donc mon premier cadeau quand j'étais bébé, c'était des petites paires de patins.
Ça existe en tout petit modèle quand
même. C'était un jouet, mais
d'accord.
Donc c'est marrant parce que j'ai tellement en fait grandi dedans que je me suis jamais, ça a jamais été quelque chose, il y a jamais un enfant qui dit, oh, j'adorerais aller à l'école parce qu'il y va déjà.
Ouais.
Et c'est quelque chose de normal. Et moi, pendant longtemps, faire du patin, c'était comme aller à l'école, c'était une activité normale, que je faisais avec d'autres enfants. Et puis, c'est venu petit à petit. J'aimais ça évidemment parce que par exemple ma sœur elle en a fait aussi puis elle a arrêté au bout d'un moment mais non j'avais d'autres c'est pas un rêve pour moi parce que c'était normal en fait donc non moi quand j'étais petite je voulais être écrivain.
C'est vrai.
Ouais c'est vrai,
c'est génial.
Et puis non en fait disons que les rêves ça a été les premières années où je faisais des compétitions, mon rêve, c'était de gagner les compétitions. Une fois que j'ai eu gagné dans mon niveau, le rêve c'était gagner le niveau d'après. Puis après j'étais avec Guillaume, mais c'était un peu pareil. On a tout de suite eu des très bons résultats et chaque année en fait notre but c'était d'être champion de France dans la catégorie poussin, puis minime, puis etc. Et c'est ça de plus en plus en fait on avait des rêves de réussite, mais ça restait dans un... Ça allait pas très très loin, quoi. On se disait pas, oh, on adorerait être champion olympique, quoi, ouais. Ou champion du monde, etc. Ça, c'est plus venu, je pense, quand on a... Il y a 5 ans, on a... En fait, on a déménagé à Montréal pour s'entraîner. Mmh. Et là, c'était vraiment la première fois de notre vie qu'on se dédiait vraiment juste au patinage. C'est-à-dire qu'avant, on faisait toujours des études. Lui, il était en prépa beaux-arts, puis moi, j'étais en lettres modernes. Et oui, évidemment, le patinage, c'était notre première activité, on va dire. Ça passait avant les études, mais il y avait toujours les études. Il y avait toujours autre chose dans notre vie qui faisait que... On n'était pas forcément focalisé juste sur le patinage. Puis quand on a déménagé à Montréal, c'était vraiment notre seule activité. Et puis ça c'est tout de suite devenu vraiment professionnel en fait. Mmh. On faisait plus ça juste pour s'amuser. On faisait ça parce que c'était notre rêve, c'était notre vie. Et c'est là où vraiment on a commencé à avoir des grandes ambitions aussi parce que on a tellement progressé. Et on s'est rendu compte qu'en se dédiant totalement à notre discipline, on avait tellement progressé que ça nous a montré qu'on pouvait aller très loin, en fait.
Les ambitions et les résultats ont pris le pas,
ouais.
sur le reste. Et du coup, au tout début, tu disais ta mère qui est entraîneur de patinage. Mmh. C'est elle qui a commencé par t'entraîner.
Ouais.
C'était comment? Ça se passe comment quand on se fait entraîner par sa maman? C'est comme quand ta maman est institutrice et que tu te retrouves avec ta maman en tant que, ça doit être un peu particulier.
Oui, effectivement. Oui, donc de mes 4 ans à mes 17 ans, c'est ma mère qui m'a entraînée.
Ah oui, d'accord. Ouais. Donc tard.
ouais, tard, jusque tard. Donc, moi et puis mon partenaire aussi. Mm-hmm. Donc ça fait beaucoup, beaucoup d'années. Mais en fait, c'est quand même assez spécial parce que c'est sûr qu'il y a des difficultés surtout à l'adolescence quand on a envie de s'émanciper un peu puis qu'on peut pas parce que c'est constamment ma mère était là puis ma mère me disait même à la maison c'était couche-toi tôt demain il y a entraînement des trucs comme ça elle a fait de son mieux hein, elle m'a laissé un peu de liberté aussi mais c'était quand même assez difficile en fait ce qui est difficile c'est pas vraiment d'avoir sa mère à l'entraînement, ce qui est difficile c'est d'avoir son entraîneur à la maison.
Ouais,
c'est ça surtout qui est assez difficile, mais en même temps ça m'a permis aussi de, je pense que sans ça je serais peut-être pas au niveau où je suis maintenant. En fait j'en sais rien, c'est dur à dire, mais non, ça m'a beaucoup je pense que ça m'a apporté. Après, bon, il y en a qui s'en sortent très bien sans leurs parents en tant qu'entraîneurs, donc je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que maintenant, on partage ça. Elle est toujours entraîneur, puis on est toutes les deux dans ce monde-là de manière différente, mais elle est capable de me regarder et de comprendre exactement ce que je suis en train de faire, ce que je fais, comment je l'ai fait, à quel point c'est difficile, d'apprécier aussi le travail technique et puis moi on est capable de se raconter un peu nos vies quotidiennes et de comprendre exactement ce que c'est ça c'est quand même c'est cool.
Parce que j'imagine qu'en plus, de ton point de vue, ça devait être compliqué parce que ta mère entraîneur, mais j'imagine que pour elle, ça doit être aussi particulier parce que du coup, t'entraînes ta fille et après, quand elle te voit en compétition, c'est quand même la maman, tu vois. Donc, ouais. J'imagine que cette double casquette aussi, ça devait être assez particulier pour ta mère à vivre.
Ouais, j'imagine. Faudrait lui demander. Mais non, c'est sûr, c'était difficile. C'était compliqué aussi quand je suis partie. Parce qu'avant de partir de. On est parti de Clermont-Ferrand pour aller à Lyon pendant 2 ans. Et ensuite, on est allé à Montréal. Et le départ pour aller à Lyon, ça a été un peu. Ça a été un peu difficile parce que de 4 ans jusqu'à 17 ans, elle m'a entraînée avec mon partenaire et tout ça. Donc, ça a été une rupture assez. Assez difficile. Moi, j'avais besoin de ça. Pas de changer d'entraîneur, mais de séparer,
de
en fait.
De couper un peu.
De couper de la mère et de l'entraîneur, quoi.
Est-ce que toi, en tant que. Ça doit être un peu particulier, parce qu'au final, tu disais, c'est ta mère qui t'a mis limite sur des patins quand t'avais 4 ans. Donc, ça n'a pas vraiment été peut-être un choix que t'as fait toi. C'était normal, j'imagine.
Ouais, c'était normal, ouais. Bah, j'ai grandi dedans. Ouais.
Toi, avec le recul, est-ce que t'as eu l'impression un peu de choisir quand même dans un sens. Ta vie, enfin en tout cas ton sport avec le recul tu dis finalement on me l'a imposé mais sans que ce soit une contrainte quand même. Comment tu le vis ça du coup toi, le fait que t'aies pas vraiment eu le choix en fait de faire ça?
Bah c'est vrai que je me souviens jamais avoir eu envie de commencer le patin, mais ça a jamais été vraiment une contrainte. En plus, je me souviens parce que à l'époque aussi, toute mon école primaire, je l'ai fait en école horaire aménagée musique. Donc je faisais aussi de la musique. Puis à l'époque, en fait, jusqu'à la fin du CM2, ça, le patin et la musique prenaient à peu près la même place dans ma vie. Et en fait, au sortir du CM2, soit je continuais dans un collège, horaire aménagé musique, mais ça allait me prendre beaucoup plus de temps, et c'était en centre-ville. Et en fait, c'est aussi l'époque où j'ai commencé à patiner avec Guillaume. Et pour patiner avec Guillaume, il aurait fallu qu'on ait des horaires aménagés ensemble, et donc sportive et pas musique. Et du coup, à ce moment-là, j'ai dû faire un choix. Et ma mère m'a dit, est-ce que tu veux continuer la musique ou est-ce que tu veux continuer le patinage? J'avais pas besoin de renoncer en fait à l'un ou à l'autre, mais
t'avais quand même un choix à faire.
J'avais un choix à faire. Est-ce que tu veux continuer le patinage sérieusement ou est-ce que tu veux continuer la musique sérieusement? Et c'était difficile parce que j'aimais beaucoup faire de la musique. J'avais tous mes amis. C'était un peu difficile de quitter ça, mais j'ai quand même choisi le patinage. Puis j'ai choisi Guillaume. Donc oui, j'ai quand même ça a pas non plus été totalement imposé. Puis malgré que j'aimais la musique, j'ai quand même choisi le patinage. Donc ça montre oui, même quand j'y repense, ça me montre que finalement, même quand j'étais jeune, j'avais envie de.
Tu savais déjà ce que tu voulais.
Je savais déjà ce que je voulais.
Parce que quand t'avais ce choix-là, t'avais quel âge?
J'avais je sais pas quel âge on a quand on est en CM2, 10 ans. 10, 11 ans.
D'accord.
Ouais.
Donc c'était déjà quand même quelque chose que t'avais
Que
t'avais en tête au final.
Ouais, non, c'est vrai.
Et le choix de se mettre en couple avec Guillaume, c'était un choix, c'est toi qui avais fait la demande ou c'est ta mère qui s'est dit tiens, ça peut être sympa d'associer Gabriella avec un partenaire, parce que t'aurais pu aussi faire ta carrière en solo?
Oui, mais en fait pas vraiment, parce que moi j'ai toujours fait de la danse sur glace, c'est ça que j'avais commencé à faire, et la danse sur glace en solo, il y a des compétitions etc, mais le haut niveau ça existe pas. Et comme quand on commence à faire de la danse sur glace, on n'apprend jamais à sauter, donc on pourra jamais faire du simple artistique quoi. Oui, je savais que si je voulais avoir une carrière à haut niveau, il fallait que j'ai un partenaire. Quoi.
D'accord.
Et oui, non, c'est en fait Guillaume, il patinait à Clermont-Ferrand aussi en solo quand il était petit, donc on patinait sur les mêmes heures, puis on prenait les mêmes cours. Et oui, c'est ma mère qui a initié ça, parce que c'est l'entraîneur surtout, parce que à cet âge-là, c'est toujours les entraîneurs de toute façon.
Tu regardes tous les petits monsieur qui patinent et tu dis « Allez !»
Bon, qui revient avec qui, quoi. Ouais. Et puis c'est ça, on a fait des essais. Je pense que ça a mis un an un peu avant qu'on veuille vraiment patiner ensemble.
Surtout qu'à cet âge-là, ça doit pas être évident non plus.
Ah ouais, oui, non, c'est ça. Et finalement, on a commencé, on avait, je pense, on avait 8-9 ans, quelque chose comme ça. Et c'était marrant. C'était marrant.
Tu fais quoi, 8 ans d'ailleurs, en couple sur la glace? Ça doit être hyper complexe, n'empêche. C'est quoi les mouvements?
Ouais, non, je me souviens. Moi, je me souviens, c'était juste plein de positions inconfortables. T'as toujours patiné tout seul et là, on te colle quelqu'un d'autre. Tu dois lever les bras, mettre les épaules en arrière. Ça fait mal, c'est inconfortable. Petit patineur, je vous préviens, ça passe. Au bout d'un moment, ça devient confortable. Vous inquiétez pas.
Mais persévérer.
Au début, oui, il faut persévérer. Parce qu'au début, en plus, il était grand par rapport à moi à l'époque. Et je sais pas, j'ai grandi tard. Donc, il était genre très, très grand par rapport à moi. Moi, j'étais toute petite. Donc, c'était encore plus inconfortable au début. Mais non, c'était marrant parce que ma pratique a pris une dimension complètement différente, quoi. Apprendre à patiner avec quelqu'un, au début, ça change complètement la nature des entraînements et tout ça. C'est...
L'amitié s'est fait rapidement, du coup, entre vous, parce que j'imagine que sinon... Non, je ne le supporte pas. Ça fait 15 ans qu'on patine, 10 ans qu'on patine ensemble.
Ah bah, il y en a, hein, ça arrive. Hein. Non, de moins en moins, quand même. Mais non, c'est vrai, il y a des couples... surtout avant qui étaient connus pour se détester. Hein. Mais je pense que maintenant, s'ils y arrivent pas, parce que le niveau est devenu tellement élevé, je pense, que si tu t'entends pas avec ton partenaire, je pense que t'y arriveras pas. Ouais. mais non, du coup, avec Guillaume, en fait, on était un peu amis avant de patiner ensemble même. Je me souviens, je crois que je l'avais invité à mon anniversaire des 8 ans, un truc du genre.
À ta boum.
Ouais. Mais non, même pas encore.
Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus tard.
C'était l'anniversaire bac à sable, quoi. Et puis ouais, non, on se connaissait depuis longtemps et on s'entendait vraiment très bien quand on était petits aussi, donc c'était cool, ouais. Les souvenirs à 8 ans, 7 ans, 8 ans, c'est un peu flou, mais je me souviens beaucoup de lui, ouais, quand on se connaissait pas trop, puis quand il patinait tout seul, il avait une façon de, bah, il était très 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 bon déjà tout petit, il a commencé assez tard, puis il était tout de suite très doué, et je me souviens de lui parce qu'il était très grand, puis il était un peu toujours la tête dans la lune, il faisait un peu, souvent il gagnait pas les compétitions qu'il aurait dû gagner parce que il tombait sur des trucs un peu cons, ou il se trompait de sens, ou il faisait pas la Corée en entier, ou un truc un peu,
heureusement que ça a changé,
un peu de ce genre, ouais. Maintenant c'est plus moi qui fais ça maintenant. J'ai délégué les défauts. Ouais, c'est plus ça. Je le regardais patiner en compétition, puis c'était marrant parce qu'il était très très bon, mais aussi très très tête dans la lune. Il y a des vidéos où on voit en pleine compétition, lui, il commence à faire n'importe quoi dans la chorégraphie, et c'est moi qui, je le regarde, on m'a dit pas ça, allez pas. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Bon, pas en compétition, mais c'est plus lui qui a tendance à... Gabriela, c'est pas ça, allez pas. Et puis c'est marrant, c'est un peu... un peu des fois, ben on s'est un peu adapté l'un à l'autre aussi. J'avais un patinage très très dynamique et très presque raide, et lui c'était l'inverse, il était très souple mais très mou aussi, et on s'est un peu, moi je me suis assouplie et lui il s'est un peu plus dynamisé, et c'est que maintenant on patine, nos patinages se sont très bien accordés, mais à la base quand on patinait tout seul, on n'avait pas un patinage qui était si accordé que ça.
Et du coup, comment tu vis ton enfance, ton adolescence? Est-ce que t'as l'impression d'avoir eu une... C'est un peu une question toujours sur le sportif de haut niveau, parce que t'as des horaires qui sont particulières, t'as, ouais, pas vraiment le même rythme de vie que un enfant ou un ado lambda, mm-hmm, qui va le matin à l'école, qui repart le soir, qui va peut-être faire un peu de sport en fin d'après-midi, qui voit ses amis, voilà. Comment tu l'as vécu, toi? T'as l'impression d'avoir eu quand même une enfance normale?
Ouais. Intense. Mais normal, ouais, non, parce que je pense que du fait d'avoir ma mère en tant qu'entraîneur, ça a exacerbé ma crise d'adolescence. Je sais pas si c'est juste ça, mais c'est-à-dire que du coup, ouais, non, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de conneries. Peut-être pour compenser, je sais pas,
ouais.
mais je faisais beaucoup, beaucoup de conneries. Ouais, non, mais les horaires, c'est sûr, c'était intense, parce que à 6h du matin, j'étais à la patinoire. Ensuite, à 8h, j'étais à l'école. Entre midi et 2, j'étais à la patinoire. Ensuite, le soir, j'étais à l'école. Et en plus, les deux premières années où je faisais plus de musique, en école horaire aménagée, j'avais continué quand même à faire de la musique. C'est-à-dire que, en plus de ça, le soir, j'allais au conservatoire au centre-ville pour prendre des cours. Je faisais du violon, il y avait des cours de deux. Alors, il y avait comme 4 heures de cours de solfège par semaine. De l'orchestre et tout, c'était très 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 intense. Et au bout d'un moment, j'ai fait une overdose de musique. C'est-à-dire, genre, ouais, au bout d'un moment, j'ai bloqué et je voulais plus voir mon violon, je pouvais plus voir des notes de musique. Ça m'a pris des années avant de me avant de d'aimer la musique à nouveau, quoi. Parce que j'en pouvais plus, quoi. mais non, du coup, après, surtout au lycée, en fait, j'avais besoin de sentir que j'étais une ado normale. Mmh. Et du coup, je compensais un peu en faisant des soirées, en faisant beaucoup, en faisant des... Bah, vous, j'étais une mauvaise... Pas une mauvaise élève, mais on va dire qu'il y a eu une période au lycée où... on va dire que les profs m'aimaient pas beaucoup. Quoi.
L'élément perturbateur de la classe.
C'est ça.
La petite rebelle.
Ouais, non, c'est ça. C'est, je pense, une compensation. Mais bon, non, je pense que je me suis quand même bien amusée. J'avais beaucoup d'amis à l'école qui n'étaient pas du tout du patinage. Et non, je pense pas. J'ai pas du tout l'impression d'avoir raté mon adolescence ou d'être passée à côté de quelque chose.
Et par le patinage, justement, parce qu'on dit souvent que le sport c'est aussi un facilitateur de sociabilité et de rencontres.
Ouais, ouais, non, ça c'est vrai. Au patinage, j'avais tous mes amis et tout. C'était en plus on faisait des stages l'été ensemble. Je me souviens les nombres de cache-cache dans le noir qu'on faisait dans les vestiaires pendant les pauses. Ah non, mais tous les jours.
On peut vraiment se cacher dans les vestiaires. C'est pas... Au bout d'un moment, les cachettes, elles
sont... Non, mais parce qu'il y avait des casiers. Alors, on était petits, donc on grimpait dans les casiers. On éteignait les lumières, puis on grimpait dans les casiers. Ah oui. Bref. Enfin, on s'amuse avec
des cache-cache-casiers, quoi.
Cache-cache-casiers, ouais.
D'accord. C'est original.
Non, non, non. C'est vrai qu'au patinage, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Puis c'est des gens aussi avec qui tu grandis un peu, parce que... À la patinoire, c'est toujours un peu les mêmes têtes, c'est toujours... Bref, donc, ouais. Non, pour ça, c'était vraiment cool, ouais.
Et du coup, côté familial, parce que c'est vrai que tu parles souvent de ta mère, parce que c'était ton entraîneur pendant longtemps,
ouais.
Jusqu'à tes 17 ans. Avec ton père, quelle était ta relation, du coup?
Mon père, j'ai jamais vécu avec. Mes parents étaient séparés peu après ma naissance. Du coup, il habitait, il habitait à Lyon au début, puis ensuite dans l'Ain. Maintenant, il habite au Texas.
C'est un petit peu plus loin.
Un petit peu plus loin. Et lui, il n'est pas du tout dans le patinage. Il est grec. Et donc, le patinage dans son pays, ça n'existe même pas, quasiment. Il a découvert ça, en fait, en venant en France et en étant marié avec ma mère. Donc oui, c'est sûr que lui, pour lui, c'est un monde lointain, lointain, lointain. Puis... il m'en parlait jamais, puis il comprenait pas grand-chose, puis ça intéressait pas plus que ça, ouais. En plus. Donc oui, c'est sûr que ça faisait en sorte que, quand je le voyais, quand je passais du temps avec, c'est sûr que j'étais loin, loin, loin du...
Et avec ta sœur, parce que du coup, tu disais que t'avais une sœur,
ouais,
tout à l'heure.
Ouais.
Vous êtes proches, comment ça...
Ma
vous avez
sœur...
partagé le patinage à un moment donné, mais elle, t'as dit qu'elle avait arrêté.
Ouais.
C'est quoi votre relation?
On a une bonne relation, mais c'est vrai qu'on parle pas du tout du patinage. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Maintenant, elle fait des études dans la socio. Et puis, en fait, on a des millions de points en commun qu'on n'a pas à voir avec le patinage. Et c'est de ça dont on parle aussi. Parce que je pense que elle peut-être aussi, bon, faudrait lui demander encore une fois, mais je pense qu'elle a dû faire une overdose un peu de patins à la maison entre moi, entre ma mère, entre, tu vois. Et du coup, c'est... ma sœur, elle est géniale, tu vois, elle est super intelligente et j'adore parler avec elle, j'apprends plein de trucs, elle lit énormément et puis on, en fait, sans vraiment toujours se parler puis s'accorder, on s'intéresse souvent aux mêmes choses et du coup c'est surtout ça qu'on partage. Elle a commencé à faire un peu de méditation et elle y arrivait pas. Et ça l'énervait énormément, mais ça l'énervait. Et puis du coup, on parlait un peu des blocages aussi un peu mentaux qu'on peut avoir comment ça peut se transcrire dans notre corps, en fait, quand notre corps nous envoie des signaux que psychologiquement et mentalement ça va pas regarder ça et puis comment l'observer et en prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit pour ouais, voilà, c'était ça notre dernier débat.
Une relation de sœur, en fait, au oui. final.
Oui, en du fait coup. Du coup, oui.
Et c'est assez intéressant parce que t'es traversée par de multiples cultures, parce que tu disais que ton père est grec, ta mère est française,
ouais.
Tu vis au Canada,
Ouais.
Tu parles aussi plusieurs langues. Je sais pas si tu parles grec ou...
Je parle pas beaucoup grec. Je parlais plus quand j'étais jeune. Mais ouais, je parle français. Je parle québécois. Un peu. Je parle anglais parce que j'ai pas le choix. Ouais. Et je parle italien.
D'accord.
Parce que mon ex. Ah.
Voilà. C'est un très bon moyen d'apprendre les langues.
Ah, c'est très très bien. Je vous le conseille.
Et du coup, toi, tu te places comment là-dedans? T'as un mélange de tout ça? Tu te sens française? Est-ce que tu te sens aussi un peu grecque? Quel est ton rapport à ces différentes cultures qui te traversent, en fait?
C'est sûr que je me sens, en fait, c'est marrant parce que je me sens pas française, mais je le suis. En fait, je me le sens pas parce que j'ai grandi en France et j'ai grandi avec la culture française. J'ai appris le français. Je suis même maintenant que je suis à Montréal, je suis quand même restée assez proche de la culture française. Et du coup, je me sens pas. Je sais pas exactement pourquoi, mais je me sens pas particulièrement française.
Ouais.
Mais par contre, je me sens un peu grecque. Mais je pense que c'est parce que mon père, les Grecs, ils sont très fiers. Très très fiers de leur culture, que ça n'existe pas forcément en France, en tout cas la plupart des gens c'est rarement qu'on va entendre quelqu'un qui dit oh, je suis très très fier d'être français, sois fier d'être français.
C'est un peu interprété, malheureusement
c'est mal vu, c'est pas super bien vu, alors qu'en Grèce ils sont très très fiers de leur culture. Mon père, il me dit toujours, le mot que tu viens de dire, ça vient du grec. Tiens, ça, tu sais, tu connais la démocratie, ça vient de la Grèce. Tu sais, genre tout le temps. un vrai grec, quoi. Et non, mais c'est cool du coup parce que c'est une culture que j'ai découvert avec mon père. Et où, quand j'étais petite, je parlais un petit peu plus grec parce que j'y allais une ou deux fois par an avec lui, voir la famille et tout ça. Et maintenant, j'y vais moins. Ouais. Mais c'est un pays que j'adore, qui est magnifique. Et en fait, j'adore de manière générale la culture méditerranéenne. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai appris l'italien. Mmh. Que ce soit la nourriture, la langue, l'état d'esprit, les paysages, tout ça. J'aime beaucoup. Puis, c'est vrai que je me sens un peu les deux. Puis en plus, maintenant, ça fait 5 ans que j'habite à Montréal. Mmh. Donc, en fait, quand tu habites à Montréal, tu ressens plus la culture québécoise que la culture canadienne, en fait.
Ouais.
Et la culture québécoise, c'est quelque chose que j'adore aussi. Montréal, c'est une ville qui est géniale. J'adore vivre là-bas. C'est tellement cosmopolite. Il y a tellement de choses, un mélange un peu des cultures là-bas. Et puis, l'accent québécois est génial, quoi. Non, mais c'est vrai. Ça me manque, là, ça fait une semaine.
Je peux essayer si tu veux, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment.
Mais moi, j'ai du mal, alors.
Mais t'inquiète pas, hein, parce que tu m'as dit que t'avais peur d'avoir l'accent, mais franchement, à part quand tu dis Montréal, on sent qu'il y a un petit relan d'accent. Mais
ouais,
sinon...
non, mais parce que maintenant je suis arrivée au point où je sais plus quel mot est français et quel mot est québécois.
C'est vrai. C'est-à-dire que tu utilises du coup des mots maintenant.
Ouais, oui.
Parce qu'au final, c'est très marrant parce que dans la culture québécoise, ils utilisent limite plus de mots français que nous français on peut utiliser parce qu'on utilise énormément d'anglicisme et eux au final, c'est quand même très, très francisant.
Ouais. Non, c'est vrai. Mais en fait, ils utilisent beaucoup de vieux mots que eux, ils ont gardés, puis que nous, on n'a pas gardés, en fait. De l'époque où les Français sont arrivés au Québec, en fait. Et ils ont gardé plein de mots comme ça, puis que nous, on n'a pas gardés. Mais par contre, il y a beaucoup, en fait, pour garder la langue française, ils se forcent un peu à tout traduire. Ce que nous, on ne fait pas, parce qu'on n'est pas très... Donc maintenant, on commence un peu à utiliser beaucoup, beaucoup de mots anglais, mais eux, à cause du fait qu'ils étaient encerclés, c'était le seul petit territoire francophone une immensité anglophone, ils ont été obligés de faire un peu des mesures pour protéger la francophonie. Et du coup, ils traduisent beaucoup, mais en fait, tu te rends compte qu'ils traduisent beaucoup de l'anglais en français.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par exemple, maintenant qu'on parle anglais, tu me donnes un truc, je te dis merci, thank you, et tu vas dire you're welcome. Et eux, ils vont dire bienvenue, au lieu de rien.
Ah
tu
oui?
vois, plein de trucs comme ça. D'accord. Et c'est marrant. D'ailleurs, au début que j'habitais à Montréal, à chaque fois que j'allais acheter un truc dans un magasin, je disais merci, ils disaient bienvenue.
Et moi, je disais merci.
Dis donc, ils sont accueillants, ces Québécois. Ils me disent bienvenue.
J'avoue, ça doit être un peu particulier, effectivement.
Ah, mais c'était marrant. Non. Et puis, ah, j'avais une amie aussi qui comprenait pas, parce que Montréal, c'est quand même assez bilingue, beaucoup plus que le reste du Québec. Et puis, quand tu rentres dans un magasin, ils te disent bonjour, hi.
Bonjour, quoi. Enfin, du coup,
ouais, mais du coup, en français et en anglais, ouais. Au cas où que tu sois d'une langue ou l'autre, pour que tu te sentes, tu saches que l'autre peut parler ta langue aussi.
Ouais.
Et puis j'ai une amie qui, elle était allemande. Et ça faisait 2 mois qu'elle habitait à Montréal. Puis je dis, mais je comprends pas ce mot là, que les gens disent tout le temps bonjour, aïe. Bref, ça donne des trucs marrants, ouais.
Je vais un peu, hop là, changer de sujet. Parce que je te suis sur les réseaux sociaux. Mmh. Et...
Merde.
Non, non ça blague. Va, ça m'arrête pas de... pas de panique. Et c'est vrai que ça, il y a quelque chose qui m'avait interpellée. C'est aussi pour ça qu'on, c'était, je trouvais ça intéressant de t'interviewer. Mmh. Parce que tu postes énormément de messages, en tout cas, tu relais énormément de messages sur la tolérance, des messages féministes, mm-hmm. Sur les droits des femmes, sur l'acceptation mm-hmm. de soi, l'acceptation de son corps, mm-hmm. etc. Et c'est assez rare. Enfin, il n'y a pas tant d'athlètes que ça, je trouve, okay. qui le font, en tout cas. Toi, du coup, quelle est ta définition du féminisme? Ah, attention, on rentre dans les choses sérieuses, là. Bam, direct.
Ma définition du féminisme... C'est une vaste question.
Est-ce que tu te considères déjà féministe?
Oui, alors les gens me posent cette question, ouais. et j'ai l'impression que c'est... À chaque fois, je me dis, mais ça me paraît hallucinant, en fait, parce que je me dis, mais pourquoi je suis une femme? Pour moi, ça va ensemble, en fait, tellement depuis que je suis petite, en fait, ça va ensemble. Comment tu peux être une femme et pas être féministe? Pour moi, ça fait vraiment aucun sens, en fait. Alors, je sais pas, j'ai l'impression... Des fois, il y a des gens qui disent, oh, mais féministe... parce qu'ils ont pas compris le sens du mot ou je sais. Bref, moi ça me, évidemment c'est comme je suis féministe parce que je suis une femme et que j'ai envie d'être traitée égale aux hommes. Pour moi c'est genre c'est exactement ça, puis c'est juste ça, c'est tout. Et ça m'a paru évident quand j'étais petite. Il y a pas mal de trucs, puis un jour j'ai découvert le mot, je me dis ah, donc c'est ça ce sentiment que je ressens un peu des fois, que j'ai pas l'impression d'être traitée de la même façon que les garçons. Ah bon, ben voilà, c'est maintenant j'ai un mot. Et puis j'ai grandi et là ça devient le truc un peu à la mode, mmh. Ce qui est génial sur les réseaux sociaux et tout, donc c'est comme une nouvelle vague un peu. Et puis moi, ça me permet aussi de me rendre compte de peut-être certains trucs que j'avais acceptés quand j'étais plus jeune, que j'avais pas forcément vu. Bah, petit à petit, je me rends compte, ah ouais, tiens, ça, que je trouvais normal. Bah, en fait, c'est non, ça l'est pas tant. Mmh. Et pour moi, bah, c'est quelque chose qui fait partie de moi. J'ai toujours eu envie de changer un peu les choses, puis de m'affirmer aussi et de montrer aux gens on n'est pas obligé de suivre ces règles à la con. et puis non, c'est ça. Après bon, c'est un vaste sujet, puis je pourrais dire plein de choses, mais qu'est-ce que le féminisme, ou est-ce que je suis féministe? Bah c'est juste ça, c'est juste je suis une femme.
Donc c'est normal. Mais je pense que c'est pas aussi évident que ça pour plein de gens, en fait.
Ouais.
Parce que du coup, t'as pas forcément ces... Toi, est-ce que t'as l'impression aussi le fait d'avoir grandi dans un environnement très féminin, élevé par ta mère, avec une sœur, ouais. ça a contribué aussi à ça?
Ouais, je pense. Non, je pense. En plus, ma mère, elle nous disait tout le temps quand on était jeune, non, faites des études, machin, faites quelque chose, parce que... Et puis, c'est faut pas être dépendant d'un homme, et tout ça. Toujours, elle nous a toujours dit ça quand on était jeune. Puis, on m'a bien vu. Alors, moi, ma sœur et mon frère, on a tous des pères différents.
D'accord.
On va dire que on était très rattachés à notre mère. Et je sais pas, c'est comme si j'ai compris dès le début que ma mère avait pas besoin d'un homme pour s'en sortir. Mmh. Et pourquoi nous on aurait besoin d'un homme pour ça? Non, mais c'est vrai.
Oui.
J'adore mon père, ma sœur adore son père, et c'est deux personnes distinctes. Ma mère et mon père sont deux personnes différentes, et ma mère s'en est très bien sortie toute seule, donc pourquoi pas moi et pourquoi pas toutes les autres filles, quoi.
Bien sûr. Ouais. Et Et toi, du coup, parce que tu publies tu relayes des messages féministes sur Instagram, tu pourrais être féministe sans pour autant relayer ces messages-là et les partager, parce que t'es quand même très suivie sur les réseaux sociaux, particulièrement, là, je pense à Instagram en particulier. Est-ce que c'est une volonté aussi de ta part, du coup, de profiter de cette notoriété, si je puis dire, pour aussi, comment dire, partager ta pensée, partager tes opinions et essayer de pas faire changer les choses, tu vois, mais en tout cas de transmettre des messages positifs et qui t'importent.
En fait, je pense qu'il y aurait aucune différence si j'avais pas ce statut ou cette reconnaissance ou tant de followers ou blablabla. Je pense que je me comporterais exactement de la même manière. Parce que en fait, je réfléchis pas forcément. C'est juste, je vois des choses comme ça qui me touchent et je me dis que c'est bien plus intéressant de regarder ce que mangent les gens, quoi.
D'accord.
Il y a pas vraiment de grande réflexion. C'est juste, je vois ça puis je me dis, mais j'ai envie que les autres gens le voient aussi parce que ça m'a touché, ça m'a fait réaliser des choses et j'ai envie de le partager, quoi. C'est vraiment juste ça. Et puis oui, je considère aussi que ma pensée est plus importante, en tout cas je lui donne plus de valeur que je pense de, aussi pas plus de valeur mais on va dire que est plus a plus de valeur à être partagée que je sais pas moi des conneries ce que j'ai mangé le matin quoi.
Ouais.
Bon, c'est mon avis personnel, chacun a sa propre façon de vivre les réseaux sociaux aussi, puis moi j'ai ma propre façon de vivre les réseaux sociaux qui fluctue aussi en fonction des jours et des mois etc, mais non, c'est ça, c'est vraiment, c'est tout.
Parce que du coup, c'est vrai que comme t'es une personnalité, on va dire, une personnalité publique, les gens forcément aussi vont plus regarder ce que tu fais. Mm-hmm. Tu vois, moi, avec mes 410 followers, si tu veux, forcément, ça va avoir moins d'impact si je partage un truc que si c'était toi avec tes 60 et quelques mille followers, tu vois. Donc forcément, ce que tu vas aussi partager va être plus regardé, donc va avoir un impact. Enfin, tu vois, forcément, je sais quand je regarde ton compte aussi Instagram, je me dis, et que je partage en plus souvent les idées que tu partages, etc. Et je me dis, ah mais ouais, grave, putain, elle est trop cool cette nana et tout. Enfin, tu vois, j'ai un peu cette réflexion en me disant, je trouve ça super, elle partage ses opinions, elle a pas peur de partager des trucs féministes, de partager des trucs sur les règles, tu vois. Non mais, du coup, je vais peut-être plus me dire ça, ce qui est con, sur toi. Parce que t'es une personnalité, enfin une sportive en l'occurrence, qui est reconnue et reconnue, que sur une de mes copines qui va peut-être partager le même truc, ce qui est totalement débile en soi. Mais tu perçois, tu le perçois ça toi ou pas?
Oui, je le perçois, mais en fait, j'essaie de pas trop y penser, parce que quand on pense trop à ça, ça bousille un peu le cerveau, et après, on est plus naturel. Et puis, les réseaux sociaux, c'est quand même, on est quand même dans une période, dans une ère un peu, c'est difficile quand même, c'est compliqué, puis c'est quelque chose, c'est nouveau, ça évolue constamment, il y a personne qui étudie ça parce que ça va trop vite pour les gens, et on est tous un peu en train de tatillonner. Qu'est-ce que c'est les réseaux sociaux, comment on doit se comporter, et puis personne ne sait vraiment quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de partager ce genre de trucs parce qu'on a l'impression qu'on doit apparaître d'une certaine façon sur les réseaux sociaux et on doit faire ci, on doit faire ça, on doit correspondre à une certaine image. Les gens postent des photos de leur petit-déj, alors moi aussi il faut que je poste des photos de mon petit-déj, puis mes photos de mon petit-déj sont pas assez beaux, alors il faut que je fasse des petits-déj plus jolis, et au final on mange de la merde juste parce que c'est beau. Et oui, je me suis fait prendre dans ce genre de cercle de pensée un peu, et des fois, oui, je me laisse influencer par ce genre de truc aussi. Mais j'ai aussi compris que, en fait, on s'en fout un peu, honnêtement. Les réseaux sociaux, ça peut être génial, comme ça peut être super nocif. Et je pense que si on n'est pas soi-même, peu importe de quelle façon ça sera nocif. Alors si t'adores manger des petits déj beaux et que c'est ça ta vie, partage-les. Mais si c'est pas ta vie, fais pas semblant. Et c'est ça aussi. Moi j'ai un peu arrêté d'essayer de me façonner dans une espèce d'image parfaite Instagram youpi tralala et de dire bon qu'est-ce que je suis, et puis c'est beaucoup plus C'est instantané, quoi, c'est ça. Je vois un truc qui me plaît, qui me touche, bah, je le partage. Parce que je pense que les gens, j'ai envie que les gens voient ça, puis j'ai envie que les autres gens soient touchés, puis c'est tout, parce que c'est moi, puis c'est ce que je fais naturellement, et c'est... C'est tout, je me prends pas la tête. Et puis, je pense qu'en étant authentique sur les réseaux sociaux aussi, ça te connecte avec des gens qui sont vraiment, réellement intéressés par toi.
Parce que tu vois, dans le même ordre, là, je reprends un exemple qui est hyper récent, parce qu'il y a quelques semaines, c'était la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie, qui est d'ailleurs la transphobie, pardon, qui est une journée d'ailleurs qui a été initiée au Québec.
Ah ouais.
Ça vient du Québec, ouais. Donc comme quoi, tu vois, on est.
Yes. Je suis fière de toi, Québec.
et là, tu vois, en ce moment, c'est aussi un peu un gros sujet dans le sport, là en l'occurrence. Il y a eu la une, je sais pas si t'as suivi un peu tout ça, mais il y a eu la une de l'équipe magazine il y a quelques semaines qui était sur ce sujet-là,
ouais.
En lien avec le film Les crevettes pailletées qui est sorti au cinéma. Avec deux hommes qui s'embrassent pendant un match de waterpolo. Il y a un documentaire aussi qui est sorti là, il y a quelques semaines à la télévision qui s'appelle Footballeur et Homo, au cœur du tabou, qui a été diffusé sur France 2. Et dans l'équipe magazine et dans le docu, ils expliquent que ils ont demandé à des sportifs de s'exprimer, tu vois, sur ces sujets-là.
Ouais.
Et que la majeure partie disent non à chaque fois, tu vois. Qu'ils soient concernés directement ou pas, mais qu'il y a encore énormément d'appréhension ou de pudeur, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, à s'exprimer sur ce genre de sujet. Est-ce que toi, en tant que sportif, parce que du coup, c'est la même chose, tu comprends ça?
Oui, en fait. Ouais, je le comprends. Parce que je pense que ça vient d'abord du fait que je pense que c'est difficile d'être à l'aise avec sa propre sexualité puis sa propre orientation sexuelle, surtout si elle n'est pas hétéro. Ouais. Ça prend beaucoup de temps. Et quand on est sportif ou qu'on soit une personnalité célèbre ou quoi que ce soit, je pense que déjà, et là je parle dans des sports où même l'homosexualité est quand même acceptée, donc je parle même pas, je pense même des sports comme le foot, etc., ça peut même influencer en fait, peut-être, je sais pas, ton recrutement, des choses comme ça. Donc, bon, ça, je connais pas assez, mais j'imagine que ça peut avoir l'influence. Donc, c'est, je pense qu'avant d'assumer ça publiquement, il faut être très, très, très à l'aise personnellement. Et c'est difficile. Donc, oui, je comprends. Je comprends que un sportif ou une célébrité qui soit pas encore à l'aise, qui est pas encore son système de support autour de lui, qui est vraiment solide, il ait des réticences en fait à assumer ça vraiment. Je peux comprendre. C'est triste. C'est très très triste. Et je pense que il faut que les sportifs qui sont à l'aise, qui ont fait tout ce chemin-là intérieur, je pense que c'est en tout cas chacun fait ce qu'il veut. Chacun est à l'aise de. Il y en a qui sont pas à l'aise aussi de dévoiler leur vie privée et ils considèrent ça comme la vie privée. Ils ont pas envie.
Ce qui est normal.
Mais si on est à l'aise à dévoiler ça publiquement, il faut qu'on fasse. Puis qu'il faut qu'on fasse du bruit aussi. Qu'il faut qu'on en parle des gens qui sont à l'aise avec ça et qu'il faut qu'on en parle parce que. On va dire que c'est un cercle vertueux, quoi. Plus les gens vont en parler, plus les gens vont être à l'aise avec ça eux-mêmes, et plus ils vont être, plus ça va devenir quelque chose de banal. Normal et qu'on va plus besoin d'avoir à en parler, en fait, un jour. Que quelqu'un, il va dire, oh mon Dieu, il est homosexuel. Ouais. Et alors? Et ben, ce sera génial. Mais malheureusement, c'est pas encore le cas, et c'est sûr que je pense qu'il faut qu'on fasse du bruit. Que ce soit si ça te concerne ou si ça te concerne pas, il faut qu'on en parle, et puis il faut qu'on en parle aussi comme si c'était normal, quoi. Sur tout ça. Genre, il faut qu'on arrête de dire, de coller l'étiquette homosexuel ou bisexuel ou transsexuel aux gens.
Je trouve que dans la société, dans sa globalité, ça progresse. Mais c'est vrai qu'on a l'impression un peu que dans le sport, ça reste encore un truc hyper tabou et que tu vois, c'est un peu en retard par rapport à l'échelle sociétale globale, on va dire, tu vois, que c'est un peu un sujet du coup qui est un peu à la traîne en train de se raccrocher au truc en disant ouais bon.
Ouais.
Que seulement maintenant, tu vois, il y a un train de retard. L'équipe magazine commence à en parler. Et d'ailleurs, ça a été abominable parce qu'ils ont eu un déferlement de haine par rapport à ce. Donc bon, tu vois, on voit que ça a du mal, ouais. Mais parce qu'aussi, t'as l'impression que certaines personnes, ils sont pas prêts encore à.
Ah ben non, mais il y a beaucoup de personnes.
Ça, quoi.
C'est marrant parce que j'évolue dans un milieu où c'est extrêmement accepté, c'est même complètement normalisé. Le patinage, surtout, l'homosexualité, en tout cas. Est très, on va dire, est très visible et très accepté, et c'est complètement normal. Même, je veux dire, j'ai toujours été eu des affinités avec les milieux artistiques qui sont des milieux très ouverts d'esprit, donc aussi c'est très accepté. Mmh. Donc moi, je vis dans cette bulle, ouais. Où tout ça c'est extrêmement normal. Mmh. C'est disons. Et des fois, je me balade, je parle aux gens dans la rue et je vois à quel point, en fait, je me rends compte à quel point, en fait, je vis dans cette bulle. Mmh. Et qu'en fait, l'homophobie, puis la transphobie, puis tout ça, c'est encore très, très présent. Et c'est difficile parce que quand tu vis dans cette bulle, et je pense que, je sais pas, vous aussi qui habitez à Paris ou je sais pas, mais en fait, on vit dans des bulles, on s'en rend pas compte. Et quand on parle aux gens dans les campagnes, les gens dans les petites villes et tout ça, même des fois, parle de ça à certaines personnes de ta famille, des fois tu vas te rendre compte que en fait malgré tout ce qui se passe, malgré qu'on en parle, etc., il y a encore énormément de chemin à faire. Et le truc, c'est que toutes ces personnes là, c'est celles là qui regardent la télé, c'est celles là qui achètent les journaux, et malheureusement les journaux puis la télé, ils veulent que ces personnes là continuent à regarder.
Mais oui,
et
bien sûr.
C'est triste. Et c'est très, très triste. Mais en même temps, je pense que moi, en tout cas, ça m'a appris beaucoup de me confronter à ces personnes-là et de me confronter à de l'homophobie pour me rendre compte qu'en fait, il y avait beaucoup de travail à faire, pour me rendre compte qu'il y avait beaucoup de chemin à parcourir. Parce que c'est dur aussi quand tu vis dans cette bulle, quand quelqu'un te parle de ça, quels arguments t'as? Parce que toi, quand c'est complètement normalisé chez toi, tu te dis mais t'es con. À part ça, c'est difficile d'avoir quelque chose à dire, puis une réflexion plus que ça.
Et t'as même pas créé un argumentaire parce que.
Non, t'as pas créé d'argumentaire parce qu'il y a rien à argumenter en soi. Pour moi et puis pour donc c'est difficile, mais je pense que c'est nécessaire aussi de créer une discussion en fait, parce que quand on discute pas, on avance plus difficilement quoi. Ouais.
Et que et aussi, même si c'est compliqué, effectivement, comme il disait, qu'il y a aussi peut-être des personnes qui sont à l'aise avec ça et qui se permettent d'en parler.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et qui soit médiatisé aussi pour que finalement ça devienne quelque chose de banal. Parce que tant que c'est pas montré.
Ouais.
Ça restera quelque chose de non assimilé et voilà.
Ouais. Non, oui, exactement. Je suis bien d'accord.
Ça, c'est un débat entre convaincus, mais.
Oui. Oui, c'est ça, en fait, le problème.
Bah voilà, oui, mais bien sûr.
Il y a trop de débats entre convaincus.
Mais bien sûr, oui, mais. Donc là, c'est aussi intéressant de voir le point de vue de gens qui vont aussi nous écouter et qui seront pas peut-être forcément d'accord avec ça.
Bah ouais.
Et c'est intéressant aussi d'avoir leur retour. Le patinage, c'est un sport dans les mentalités qui est féminin, quand même, pour la plupart des gens. Et ça va pas être rare d'entendre dire, de toute façon, tous les mecs qui font du patinage, ils sont gays ou ils font efféminés, tu vois, justement, c'est ce sexisme-là.
Ouais, c'est beaucoup pour les hommes, c'est assez difficile. C'est complètement différent, mais oui, il y a beaucoup de garçons qui dans leur famille acceptent même pas qu'ils fassent du patinage parce que ils trouvent que c'est pas un sport masculin et que c'est dégradant. C'est hallucinant, il y a des gars qui ont dû séparer leur famille pour pouvoir continuer le patinage quoi, à ce point-là. Oui, c'est sûr qu'à l'intérieur de le patinage, par exemple, l'homosexualité, tout ça, c'est bien vu, mais l'extérieur du monde, le patinage est pas bien vu, et ça, je pense que nous, les filles, on s'en fout. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que les gens nous encouragent à faire. Oui, c'est un sport féminin, allez-y, blablabla, mettez des jolies robes à paillettes. Mmh. Mais pour les gars, c'est souvent très difficile. Et puis même à l'intérieur du patinage,
il y a toujours un peu ce stigma de ah, la fille elle doit être féminine et le garçon doit être masculin. Mmh. Allez, sois plus masculin, t'es pas assez masculin.
Bombe le torse,
ouvre la porte à ta partenaire. Oh mon dieu, c'est fatigant, c'est lourd quoi, des deux côtés. C'est très lourd, faut que ça arrête.
Ouais. Et dans un autre registre, mais qui est toujours finalement le même, donc toi, tu dis que tu es féministe, mais c'est quelque chose qui est normal pour toi aussi, c'est pareil.
Ouais, ouais.
Un des principes du féminisme, c'est aussi de lutter contre les diktats du corps parfait et de la beauté, voilà, la beauté qu'on impose un peu aux femmes. Mmh. Comment tu vis avec cette schizophrénie aussi, toi? Parce que tu évolues dans un sport, un des sports, voire le sport où le corps est le plus important et où il se doit d'être beau.
Ah ouais, non, c'est très difficile. Non, je pense que c'est un gros sujet, ça, par exemple, dans le patinage, et qu'il faut commencer à lancer, je pense. Mais oui, il y a cette culture de il faut être beau, il faut être mince. Et puis, le problème, c'est que ça crée beaucoup de... C'est difficile en fait pour les femmes dans le milieu, pour les filles. C'est extrêmement difficile. Puis je commence à, bon, j'ai toujours un peu ressenti, mais je commence vraiment à réaliser en fait l'ampleur de que ça prend tout ça sur la santé mentale des filles. Le nombre de filles qui ont des problèmes, des troubles alimentaires. Des problèmes avec leur image de soi, c'est hallucinant, mais c'est hallucinant. Et le problème, c'est qu'on perpétue un peu cette culture du beau, du mince, du blablabla et tout. Et c'est triste en fait. J'ai toujours été très mince et on m'a toujours félicité pour ça.
Ouais.
Comme si c'était quelque chose.
Comme si t'avais accompli quelque chose.
Comme si j'avais accompli quelque chose. Et du coup, je me suis jamais intéressée à bien manger. Je me suis jamais intéressée à la diététique sportive nécessaire au bon fonctionnement des muscles. Parce que je me disais, bon, je suis déjà mince, m'en fous. Et j'ai compris ça il y a quelques années. En fait, je me suis dit, non, mais attends, si je mange des pizzas matin, midi et soir, au bout d'un moment, mon corps, il va plus très bien fonctionner, quoi. Et puis, en effet, j'avais des problèmes. J'étais tout le temps fatiguée. J'avais pas beaucoup de force. J'avais des muscles qui se développaient pas. Parce que, en fait, on m'avait jamais appris à bien manger. Mais à bien manger, ça veut pas dire faire un régime. Bien manger, ça veut dire manger des aliments qui vont te donner de la force, avoir un régime, manger assez, suffisamment. Et ça, c'est bien plus important. Et j'ai commencé à comprendre ça il y a quelques années. Et à avoir envie de rendre mon corps plus fort. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait qu'on a fait beaucoup de chemin et que j'ai fait beaucoup de progrès aussi, moi, personnellement, dans ma pratique. C'est parce que je me suis rendu compte de ça. Mon corps, c'était mon instrument et qu'il fallait que j'en prenne soin. Pas qu'il fallait que je le modèle ou que je le façonne ou que, pour qu'il corresponde à une image. C'était mon instrument et il fallait que je puisse m'en servir correctement, quoi.
Toi, t'es dans ce sens-là. Ta défi, ça va être dans l'autre sens.
Oui,
c'est-à-dire que, du coup, elles vont avoir peut-être un surpoids, enfin voilà, ouais. je mets des millions de guillemets avec mes doigts en disant ça, mais qui du coup ne rentre pas dans les normes de votre sport, qui du coup vont faire des régimes, qui du coup elles vont se priver beaucoup, et bon c'est pas que dans le patinage bien évidemment, c'est dans plein d'autres sports. Est-ce qu'il y a une solution à ça en fait?
Bah oui, il faut qu'on arrête. Non, mais je veux dire, bon, évidemment que notre corps, il doit être optimisé à notre pratique. Donc, c'est sûr que si on a plus de gras que de muscles, ça va nous handicaper un peu, comme dans tous les sports. Mais ça doit pas être quelque chose qui est esthétique. Ça doit pas être quelque chose qui vient de... Oui, c'est ça. Ça doit pas être esthétique. Ça doit juste être sportif, en fait. Oui, on doit développer des muscles, on doit bien manger, la diététique c'est important, mais pas pour maigrir, c'est important parce que on a besoin de nourrir notre corps, on a besoin de nourrir nos muscles. Et le problème c'est que on a pas ça. Nous les filles, on sait comment perdre du poids, on sait pas comment gagner des muscles. C'est triste, mais c'est ça. Et là j'ai la chance d'évoluer à Montréal dans un environnement qui est très positif par rapport à ça. Moi, quand je suis arrivée, on m'a dit « qu'est-ce que tu manges ?» Et je me suis dit, mais on m'a jamais posé ça, parce que j'ai pas l'air. Je veux dire, je suis mince, on n'a jamais eu envie de me poser cette question. Mais en fait, c'est extrêmement important. Et puis, il faut qu'on arrête de critiquer aussi. Non, mais c'est vrai.
Bien sûr.
Il faut qu'on arrête de dire aux filles, t'es trop grosse, t'es trop mince, t'es trop ci, t'es trop ça. Il faut qu'on nous dise, tiens, j'ai l'impression que t'es fatiguée aujourd'hui. Mmh. Tiens. Est-ce que t'as bien mangé aujourd'hui ou t'es pâle? Est-ce que t'as mangé quelque chose? T'as mangé 2 pizzas? Ben c'est pas top quand même avant de faire du sport. Ça fatigue, tu vois ça. Et il faut pas féliciter les filles quand elles sont minces. Ouais. Il faut pas. Non, chaque corps est différent aussi. Il y a des filles, c'est sûr, qui vont jamais être minces, et ce sera ça leur force aussi, parce qu'elles vont réussir à développer des muscles que d'autres filles pourront pas, et d'autres filles seront naturellement plus minces, elles auront peut-être pas autant de muscles, mais ça leur permettra d'être plus fortes d'une autre manière aussi. Et puis je pense qu'il faut développer ça aussi, chacune, ben par rapport à elle-même en fait surtout. Ouais.
Tu vois, au final, on va finir par te demander ce que t'as mangé au petit déjeuner.
Il n'était pas beau. Je l'ai pas mis sur Instagram.
Ah bah mince alors, du coup, zut. Bon. Et toi, je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, mais du coup, toi, quelle est ta définition en fait de la beauté?
Quelle est ma définition de la beauté?
T'es dans un sport, et c'est hyper intéressant parce que quand on regarde par exemple le patinage à la télé, que c'est commenté. T'as souvent ce genre de commentaire qui revient de « Ah bah elle est vraiment très belle », tu vois, c'est, enfin bon, pas dit comme ça bien évidemment, mais voilà, tu vois, on juge aussi très vite sur un physique, sur la beauté de la patineuse.
Ça m'énerve. Ah non, ça m'énerve. À chaque fois, des fois, j'écoute les commentaires, je me dis merde quoi. On est en 2019, sérieux, genre sérieux. Non, je pense que déjà c'est un sport qui est artistique. Donc forcément, la beauté, que ce soit du mouvement, que ce soit du costume, que ce soit de tout, en fait, ça compte. Et c'est normal. C'est comme la danse. Mais ça doit pas être un concours de qui a la plus belle robe et qui a les plus belles fesses.
De Miss France.
Non, c'est pas un concours de Miss France. Chacun a sa propre définition, puis chacun a sa propre. On va dire son propre chemin par rapport à ça. Moi, j'aime bien avoir des costumes qui sont pas trop flashy, qui mettent en valeur la chorégraphie et la musique. Je pense que c'est tout un package, en fait, comme on dit en anglais. Pour moi, c'est ça. Il y en a pour d'autres, ils ont envie d'avoir un costume qui brille et qui machin et qui truc. Mais chacun fait son truc. Chacun a sa propre démarche. Et en fait, moi, je trouve ça beau quand un patineur, une patineuse a son propre style, que ce soit avec un costume à paillettes ou sans paillettes. Moi, je trouve ça beau quand un patineur patine sur une musique... et que ça se voit que c'est pas ses coachs qui l'ont choisi, que ça se voit quand c'est lui ou elle qui l'a choisi. Moi, je trouve ça génial, tu vois. Et on n'a pas assez de ça. Et j'aimerais que les commentateurs, ils commentent plus sur la technique. Parce que, en fait, ce qui est le plus beau aussi, c'est quand la technique est belle, en fait. On a beau faire des jolis costumes et des jolies coiffures, mais il n'y a rien qui bat une belle technique, il n'y a rien qui bat des beaux exploits, et je pense que c'est sur ça qu'on devrait se focaliser plus. Et oui, bien sûr, c'est beau, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant. On s'en fout de parler de ça, on s'en fout de parler de oh, elle est jolie cette fille, elle a une belle coiffure, on s'en fout. Je veux dire, ça l'aide, en fait, c'est surtout pour nous qu'on fait ça, et ça devrait rester pour nous. On a envie de se sentir bien dans notre peau, on a envie de se sentir comme ça, mais. Ah, c'est pas ce qui devrait transparaître, c'est pas ce dont on devrait parler.
Mais justement, je réagis sur les commentateurs. Le patinage, c'est un sport qui a la chance, et ça devrait être normal, mais d'être diffusé à la télévision assez fréquemment, même s'il n'y a pas toutes les compétitions qui y sont diffusées, mais c'est un sport qui est quand même relativement diffusé sur France Télévisions. C'est les mêmes commentateurs depuis des années, qu'on connaît, je ne vais pas les citer, mais qui sont les mêmes depuis des années. Malheureusement, j'ai aussi l'impression, tu me dis si je me trompe, c'est mon point de vue, que le patinage pâtit un peu des fois d'une image un peu ringarde.
Ouais, je suis d'accord.
que les gens ont tendance très facilement à se moquer justement du patinage parce que c'est des nanas ou des mecs, on a tendance à dire à paillettes qui se dandinent sur la glace. Enfin voilà, bon, je grossis le trait, mais tu vois, c'est un peu ça. Ouais. Et que ça pâtit vraiment de cette image des fois un peu ringarde. Est-ce que tu penses aussi que ça passe par le commentaire, par la façon dont est traité le patinage?
Ouais, pas que, évidemment. Je pense que c'est même presque une petite partie, parce que le patinage n'est pas forcément plus populaire dans les pays où les commentateurs sont, sont différents, en fait, malheureusement. Mais je pense que ça vient aussi beaucoup de ce qu'on fait, puis des règlements, et de la façon aussi qui est en tête et qui décide des règlements. Ben, le problème, c'est que c'est souvent des personnes âgées et qui sont restées un peu... En fait, le problème, c'est que le patinage, ça a été extrêmement populaire dans les années 80. Extrêmement populaire. Et le problème, c'est que ça n'a pas évolué, en fait. Parce qu'on ne l'a pas laissé évoluer. On s'est dit, mais c'était populaire dans les années 80, il faut garder tout ce qui ça faisait qui était populaire.
Parce que ça marchait avant.
Mais le problème, c'est qu'on n'est plus dans les années 80. Les gens, c'est plus des gens des années 80 qui regardent la télé. Mm. Bon, en fait, si, parce que c'est...
Oui, mais pas que.
C'est nos grands-mères. Mm. Mais je veux dire, si on ne laisse pas évoluer le patinage au rythme, ben de tout ce qui se passe à l'extérieur, le problème, c'est que ça va pas gagner en popularité. Je pense que c'est surtout ça le gros problème. Et oui, je pense aussi, parce que bon, qui sait qui est commentateur aussi, c'est des gens qui étaient populaires dans les années 80. Mmh. Et je pense que c'est pas leur faute, c'est des personnes géniales, mais on leur dit aussi. On leur dit, ah non, mais c'est bien quand tu fais des blagues comme ça et tout. Ouais. Et en fait, non.
Le féminisme en prend un coup aussi de temps en temps.
Non. C'est comme c'est Philippe Candeloro. Moi, je l'adore, je l'aime beaucoup. Mmh. Et le problème, c'est que, oui, moi, je trouve que ses commentaires, ils évoluent pas beaucoup par rapport à la période dans laquelle on vit, par rapport au progrès que le reste du monde fait. Et il y a des blagues qui étaient super drôles il y a 10 ans. Et que maintenant, les gens font « Ah,
malaise !»
Malaise. Et puis, bon, je pense que c'est un peu tout le monde à la télévision. Ben, on voit même genre « Touche pas à mon poste », des trucs comme ça. C'est la même chose. Et le problème, c'est que peut-être que ça plaît encore à certaines personnes. Mmh. C'est ça le problème. Moi, je vois si « Touche pas à mon poste », c'est populaire. Ça dit beaucoup sur les gens qui regardent la télé, quoi. Ouais. Mais bon, malgré ça, je pense qu'en plus, il faut profiter du fait que le patinage, c'est pas si populaire que ça, je pense, pour renouveler un peu la façon dont on commente.
Ouais. Et quelles sont les solutions, du coup? Comment on pourrait redynamiser un peu l'image du patinage et peut-être que d'autres personnes plus jeunes s'y intéressent et se disent, en fait, c'est pas un sport de plouc en juste corps. Enfin, tu vois, c'est vraiment intéressant, c'est hyper technique, c'est hyper sportif, et qu'on change un peu cette image-là.
Je pense que c'est une question assez vaste. Puis en plus, j'ai du mal à me rendre compte de ça parce que je suis
dedans.
trop dedans, honnêtement. Je pense que je me rendrais vraiment compte de ça et j'aurais vraiment une idée plus précise et plus claire quand je serais sortie, en fait, quand j'aurais fini ma carrière. Mais je pense que ça passe un peu... je veux dire... Même si les commentateurs changent, ça va toujours rester les mêmes choses à commenter si le patinage change pas. Je pense qu'il faut que...
Au sein même de la Fédé.
Au sein même de la Fédération ou de la Fédération internationale, ou même des patineurs, des entraîneurs, en fait, tout le monde a une responsabilité à prendre. Et ça peut pas être juste une seule personne, ou ça peut pas venir d'une seule personne, d'un seul endroit, ou d'un seul rôle, en fait. Ça doit venir des gens, petit à petit. On doit parler, on doit dire... Et puis, il faut que les jeunes... En fait, je pense que ce qui est important aussi, c'est que c'est les jeunes, en fait, qui lancent des mouvements et c'est les jeunes qui rendent ça populaire et c'est les enfants, en fait. Au final, c'est la voix des enfants qu'on écoute, vraiment, dans le temps puis dans l'histoire. C'est eux qui feront le futur du patinage. Donc, si eux, ils font comme les vieux,
On n'est pas rendus, hein.
Non, mais c'est ça, et je pense qu'il faut encourager en fait les jeunes à faire ce qu'ils ont envie, puis à pas à choisir des vieilles musiques toujours les mêmes. Il faut pousser les jeunes à se laisser exprimer, parce que c'est un sport où on peut choisir notre musique, on peut faire notre chorégraphie, c'est artistique, donc c'est un sport d'expression artistique et donc d'expression de soi, et je pense qu'il faut faire ce qui nous plaît Alors, si la musique classique, ça te plaît, fais de la musique classique. Parce que ça se verra que ça te plaît et ce sera intéressant. Le problème, c'est que là, il y a beaucoup trop de gens qui font de la musique classique alors que ça leur plaît pas, la musique classique. Et ça se voit et c'est ça qui est chiant. Quand une fille ou un gars patine sur Carmen et que ça se voit que il fait ça juste parce que ses profs ou la fédération lui ont dit, bah c'est ça qui est pas intéressant. Quand quelqu'un patine sur Carmen parce qu'il est passionné de Carmen, que c'est sa musique préférée, bah ça se voit et c'est génial. Et je pense que c'est ça qu'il faut encourager en fait.
Justement, ça me fait rebondir parce que tu dis le patinage c'est un rare sport aussi qui est mi-sport mi-art. En tout cas, c'est vraiment une discipline qui est extrêmement artistique. Mm-hmm. Tu parles beaucoup de la musique. Toi, quelle est ta relation à l'art dans sa globalité et à la musique? C'est déjà une question à laquelle tu as répondu, mais c'est vous qui choisissez vos musiques.
Ouais.
Comment ça se passe, tout cet aspect plus artistique-là avec Guillaume?
Je pense que Guillaume et moi, on est beaucoup plus attirés par le côté artistique que par le côté sportif de cette discipline. Et c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Il y a des gens, eux, ils font du sport, c'est des athlètes. Et le côté artistique, c'est une composante, pas plus. Et puis, ça marche très bien pour eux. Chacun a sa propre démarche, c'est ça encore. Mais nous, on est... c'est ça, lui, il faisait les prépa beaux-arts. Moi, j'étais en lettres modernes, j'ai fait de la musique. Bref, tout plein de trucs. Je pense qu'on a toujours été plus attirés par les disciplines artistiques que sportive, et c'est pour ça aussi qu'on fait du patinage et moi je ferais aucun autre sport. Je ferais de la danse, je ferais plein de trucs, de la musique, mais je ferais probablement pas d'autre sport que le patinage artistique. Et du coup, nous, c'est ça qui nous motive beaucoup, beaucoup aussi, c'est la création de chorégraphie, dans le choix des musiques, avec toutes les contraintes que ça a à cause des règlements, mais c'est ça aussi c'est chiant. Mais c'est ça aussi qui rend le truc fun aussi. On peut pas choisir ce qu'on veut. Il y a tellement de contraintes que, du coup, c'est très, 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 très compliqué de choisir des musiques, de construire une chorégraphie, etc. Mais du coup, ça rend le truc encore plus beau parce que, du coup, quand on réussit à faire quelque chose de vraiment beau et qui tient la route, avec toutes les contraintes qu'on a, et ben, du coup, c'est ça qui rend le truc encore plus spécial et dont on est fier. Mais oui, nous, on adore, on prend beaucoup de part dans nos chorégraphies, on choisit nos chorégraphes, on parle beaucoup avec les chorégraphes, on a notre voix. En fait, c'est plus un travail, je pense, on travaille avec les chorégraphes plus que les chorégraphes mettent une choré sur nous. Et parce qu'on aime faire ça. Et par exemple, là, c'est la saison off. Donc là, on est en vacances. Mais avant d'être en vacances, on était 2 semaines à Montréal pour travailler un peu. Donc, sur des nouvelles chorégraphies, on parlait de musique. Et donc, on essayait de danser sur des musiques pour voir si on les aimait ou pas. Avec des chorégraphes, on essayait de faire des petites chorégraphies au sol pour voir comment ça marche. Puis ça, c'est génial. Moi, c'est pour ça que j'aime faire ça. C'est explorer, en fait. C'est s'amuser. C'est jouer, avec la musique, avec des mouvements, avec des histoires. Bref, donc oui, ça a énormément de part dans notre démarche.
Et comment vous choisissez votre musique? C'est vous qui proposez? Vous avez, il y a des thématiques? Parce que là, c'est vrai que souvent sur vos programmes libres, ça a été du classique.
En fait, juste 2 années.
Oui, c'est vrai. Mais vous avez fait Mozart.
Mais oui,
et...
oui. Parce que nos plus gros, on va dire, les programmes les plus... marquant, on va dire, ça a été sur la musique classique, ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que on a cette étiquette de patineur classique alors que on a fait 2 programmes et c'est pas grave. Moi, j'adore la musique classique. J'ai étudié ça pendant 2 années à l'école, donc j'adore ça. Mais en fait, avant d'avoir patiné sur Mozart, pour nous, c'était impensable de patiner sur de la musique classique. On aimait, je sais pas, on a patiné sur quoi avant? On a patiné sur Pink Floyd, on a fait un programme sur Elvis Presley, on faisait des trucs un peu... on a patiné sur Matrix, on faisait des trucs un peu... pas toujours très bons, mais toujours expérimental.
Vous testez.
Ouais, c'était très expérimental. Mais bref, on avait fait un programme sur Woodkid l'année juste avant aussi, qui était... Bref, c'était ça, là, ça c'était... plus notre style, tu vois. Et puis, en arrivant à Montréal, c'est notre prof qui nous avait proposé, tiens, regardez ce ballet et tout, Mozart, ce serait bien. Et puis, on était, Mozart.
Hein? Are you serious?
Are you serious? Mozart. Et puis, finalement, oui, il y avait tout un concept de danse un peu plus contemporaine sur du Mozart. Chose qui se fait dans la danse depuis des dizaines d'années, mais que dans le patinage, ça s'était jamais fait, on sait pas pourquoi. On se dit, oh, vous êtes tellement novateur. Non,
non pas du tout. On est même plutôt en retard.
On est très, très en retard, en fait. Mais je pense qu'on avait envie aussi de connecter un peu cet univers de la danse moderne, contemporaine, en fait, ce qui se passe vraiment actuellement dans le monde au patinage. Parce que le patinage, c'est quoi? À la base, la danse sur glace, c'était quoi? C'était des danses de salon transposées sur glace. Et le problème, c'est qu'on est resté là-dedans. Et sauf qu'en boîte, plus personne danse du quick-step, quoi. Et j'adore le quick-step, c'est très joli. Mais quand il n'y a que ça à la télé, tu m'étonnes que les gens regardent plus. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et je pense que, ouais, on avait envie, parce qu'on adorait la danse, on adorait ce qui se passait dans l'art, dans le reste du monde. Ouais. Et on avait envie de connecter un peu ça au patinage, et puis de s'inspirer de ça. Oui, en fait, ce serait super cool qu'à un moment, les gens d'autres disciplines artistiques s'intéressent au patinage. Donc, que ça se connecte avec ce qui se passe dans la musique, que ça se connecte avec ce qui se passe dans la danse, que ça se connecte avec ce qui se passe dans l'art en général, en fait, ce serait génial.
Et toi, en tant que Gabriella Papadakis, t'écoutes quoi? Tu danses? Tu fais quoi comme type de danse? Quelles sont tes passions hors du patinage, on va dire?
Hors du patinage. C'est marrant parce que les musiques sur lesquelles j'aime patiner sont pas les musiques que j'aime écouter.
C'est intéressant.
Ouais, et les musiques que j'aime écouter sont pas les musiques sur lesquelles j'aime danser ou patiner. Genre là, j'écoute tout le temps du funk en ce moment. Okay. J'ai pas spécialement envie de patiner sur du funk. Alors, c'est pas mon style, c'est pas ce que j'aime forcément faire. Sur glace, bah, je pense avec Guillaume, on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup jouer avec les silences dans la musique, en fait. On s'en rend pas forcément toujours compte, mais on choisit toujours des musiques très... qui ont beaucoup de silence. On est toujours attiré par ça parce que ça nous... Ah, je sais pas, ça nous inspire énormément. On aime ça parce que je pense que dans les silences, il y a tellement de choses. On connecte avec le public. Mmh. Et nous, c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qu'on aime faire. Et sinon, à l'extérieur du patin, bah, là, par exemple, je fais du théâtre d'impro. J'ai commencé ça en septembre.
Trop bien.
Et c'est génial. C'est génial. En plus, à Montréal, c'est un énorme truc. C'est ça. J'aime danser, mais je pense que depuis que je suis petite, je faisais de la danse classique. Ensuite, on a fait beaucoup de danse contemporaine avec Guillaume. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de danse de salon. Mmh. On a commencé à faire du hip-hop aussi il y a quelques années. Je pense que d'avoir une bonne connaissance dans toutes les danses, c'est extrêmement important pour nous parce que tous les ans, on change. Il y a un thème, il y a machin, il faut qu'on soit versatile. Et puis même, ça, je pense que connaître plein de styles de danse différents, ça rend ton corps plus intelligent. Mmh. Et puis moi, il n'y a pas de style de danse que j'aime moins que l'autre, en fait. Honnêtement, hein, genre, j'adore, j'ai une passion pour le swing. Que ce soit la musique, que ce soit la danse. Souvent, à Montréal, je vais à des soirées swing. Ça, c'est plus un hobby, mais ça, j'adore ça. J'aime l'expression corporelle, en fait, de manière générale.
Tu pourrais te reconvertir en tant que danseuse après ta carrière de patineuse?
On verra, je sais pas. Je pense que la danse, c'est difficile. Mais on verra. Mais en tout cas, j'adore ça. C'est sûr que je continuerai à danser, c'est sûr que j'en serai toute ma vie.
J'aimerais bien juste revenir un petit peu sur, du coup, le plus votre aspect carrière sportive, du coup, qu'on n'a pas trop abordé, mais qui est quand même intéressant d'aborder. Déjà, il y a une première question, moi, qui me turlupine. En tout cas, que je trouve intéressante, c'est comment tu vis personnellement et sportivement, en fait, d'être identifié et d'évoluer en permanence comme une entité à deux têtes.
Ouais. Enfin,
tu vois, on sait Papadakis Cizeron.
Ouais.
Tu vois, ils sont champions du monde. On va pas dire Gabriella Papadakis est champion du monde. Tu vois, comment t'appréhendes ça?
Encore une fois, c'est difficile parce que j'ai pas de recul par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de spécial. Et en fait, je pense que c'est nécessaire aussi. J'ai pas envie qu'on parle de moi au singulier quand c'est pour parler d'une carrière de ma carrière avec Guillaume, en fait. Et en plus, avec Guillaume, ça fait 15 ans qu'on patine ensemble. 15-16 ans, je sais même pas. Ça fait 15 ans, bref. Et donc, ça fait très longtemps, on a grandi ensemble, ça fait 15 ans qu'on est une entité à deux. Et on a grandi comme ça, et je pense que c'était nécessaire pour nous de vraiment se construire une vie personnelle distincte. Très distincte même. On se voit quasiment jamais à l'extérieur de la patinoire. On a chacun nos vies, chacun nos hobbies, chacun nos activités. Parce qu'on passe toute la journée ensemble à la patinoire. On est tout le temps assimilés à deux. C'est Gabriela Guillaume, Gabriela Guillaume, Gabriela Guillaume, tout le temps. Depuis qu'on est jeune. Et c'est vrai que c'est un peu difficile de se construire singulièrement là-dedans. Et je trouve qu'on a assez bien réussi ça. On est vraiment deux personnes séparées quand on n'est pas sur glace. Et ce qui permet de pouvoir laisser nos vies séparées externes dans les vestiaires pour se consacrer à une autre entité commune quand on est sur la glace. Et je pense que c'était important pour nous d'arriver à faire la part des deux. Ouais. Et on s'entend très bien sur la glace. Et le reste du temps, on a chacun nos vies. Et c'est très, très bien comme ça. Et oui, ça va être très spécial, je pense, quand on va arrêter notre carrière. Ça va être très bizarre. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Je ne sais absolument pas comment on va gérer notre nouvelle relation de deux personnes au lieu d'une. Un peu. Non, mais presque. Hein.
C'est la séparation. Enfin, c'est un couple, hein, c'est de la danse de couple. Le nom est le bon, enfin, je veux dire.
Ouais, ouais. Mais ça va être spécial parce que c'est sûr que maintenant, même publiquement, ce que je fais reflète sur Guillaume, ce que Guillaume fait reflète sur moi. Donc je pense qu'il faut toujours être un peu conscient de ça, même si il faut quand même aussi se construire
personnellement.
Personnellement. Mais oui, par exemple, aux Jeux Olympiques, Martin Fourcade m'avait nommé comme porte-drapeau.
Oui.
Et moi, j'étais.
Sur la cérémonie de clôture.
C'était génial, tu vois, j'avais adoré, mais en même temps, j'étais mal à l'aise parce que je me dis pourquoi.
Pourquoi moi, ouais.
Je suis deux personnes en fait. Il n'y a pas juste moi, et du coup, Guillaume est venu avec moi. Mais pour moi, c'était très, très, très bizarre en fait. Non, je ne suis pas juste. En tout cas, dans le sport, en tout cas, aux Jeux Olympiques, je suis Gabriela et Guillaume, en fait.
Tes performances sportives sont associées à quelqu'un d'autre.
C'est ça. Et j'avais pas envie même de me séparer de ça, parce que pour moi, ça avait pas lieu, en fait, d'être. Donc, ouais.
Mais... Tu l'as quand même fait.
J'avais dit, moi, je le ferai pas toute seule. Je le ferai pas toute seule. Je le ferai avec Guillaume, mais je le ferai pas toute seule, quoi.
Ça devait être un beau moment, ça, d'ailleurs.
Ouais, c'était vraiment génial. Ouais, non, c'était très, très cool.
D'ailleurs, pour revenir sur les Jeux Olympiques, je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler parce que moi, ce qui m'a intéressé après coup, c'est que j'ai regardé... Bon, je vous ai suivi, bien évidemment, parce que à la télévision, et j'ai suivi tout le ramdam médiatique qu'il y avait eu après, derrière. Et là, moi, du coup, avec le recul, parce que maintenant, ça fait quand même un petit peu de... Voilà. L'année dernière, voilà. Comment t'as vécu, en fait, le fait que, du coup, pendant des semaines et des mois, on n'ait parlé que d'un truc, c'est son costume qui se décroche, en fait. Parce que finalement, j'ai trouvé ça tellement dommage. Enfin, tellement dommage. Bon, c'est normal qu'on en parle, mais c'était plus que ça.
Ouais.
Et puis, ça a été le concours international du jeu de mots aussi sur ton costume qui se décroche. Comment tu l'as vécu?
Déjà, de toute manière, c'était difficile pour nous de pas gagner les jeux parce que c'était vraiment ça notre but, et en fait on l'a pas réussi à cause de cet incident, et c'est un incident sportif, tu vois, mais c'est quand même un incident con. Et c'est difficile d'accepter en fait que ça soit arrivé, et que malgré notre préparation et malgré, je veux dire, on est des athlètes, quoi, merde. Et du coup, quand ça arrive, tu te dis c'est difficile à accepter, en fait, qu'un élément externe vienne perturber ta performance sportive. Et du coup, on avait beaucoup de mal à dealer avec ça, on va dire. Et en plus, de toute façon, peu importe de quoi on parle, mais c'est toujours dur de parler de la même chose tout le temps, à chaque interview, à chaque interview. Ouais, c'est quelque chose qui est assez difficile psychologiquement. Et en plus, oui, c'est sûr que de parler de ça, c'était... ça me rappelait, ça nous rappelait, c'était un rappel constant de l'incident, puis de pourquoi on n'avait pas réussi à être au meilleur de nos moyens. On pense qu'on aurait gagné la médaille d'or sans ça. Ça se trouve, non. Mais le problème, c'est que on pense, c'est ce qu'on a ressenti, du moins. Et puis du coup, c'est un peu difficile de se faire rappeler ça tout le temps. Et oui, en plus, la façon dont c'était raconté, c'était pas forcément très... comment dire,
Pertinent.
Pertinent, exactement. Mmh. Parce que, bah, c'est, pour moi, c'était ça. Je suis une athlète, il y a mon costume qui se défait. Bah, c'est un incident et non, je m'en fous d'avoir les seins à l'air. Tu sais, les gens, ils disaient, oh, la pauvre, voilà, les seins à l'air, je m'en fous. Et les gens, ils venaient me voir tous, ils venaient me voir, ils me disaient, oh, mais t'inquiète pas, j'ai pas vu tes seins. Mais ils m'en je m'en fous. Mais je m'en fous. Au moins, si tu les avais vus, quoi. Je sais pas. Ça... Non, mais. Je m'en fous et du coup c'était chiant que les gens croient que parce qu'en plus j'avais un peu ça se voyait en plus parce que tu sors de glace et tous les caméras tous les machins et moi j'avais envie de pleurer j'étais énervée j'étais en colère et puis bon c'est transformé en oh, la pauvre elle pleure parce qu'on a vu ses seins. Ah non mais pff, n'importe quoi.
Alors c'est ça au final, ça n'empêche c'est une vraie question mais ça ouais. Tu t'en foutais?
Ben pff, c'est sûr, je préfère que les gens voient pas mes seins à
télé. Oui, j'imagine.
Mais tu sais, mon corps, c'est ça. Mon corps, je le vois vraiment comme mon instrument. Et pour moi, mes seins, c'est pas des seins. Mes seins, c'est juste une partie de mon corps. Et oui, je préfère que les gens les voient pas. Mais en même temps, c'est vraiment pas plus important que ça, quoi. je pense que chacune a sa propre démarche. Mais quand je suis sur glace, quand je m'entraîne, quand je fais du patinage, mon corps, c'est mon instrument. Et il n'est pas sexuel, c'est pas un corps sexuel. À l'extérieur du patinage, dans ma vie privée, c'est là où je me réapproprie, c'est là que je reprends mon corps comme un corps sexuel. Et je pense que les deux sont différents. C'est pour ça qu'on voit mes seins sur la glace. Je pense même pas, mes seins, c'est une partie de mon corps qui est mon instrument, qui est un corps d'athlète, de sportive. C'est pas un corps sexuel, donc... Pour moi, qu'on sexualise ça, ça avait comme aucun rapport, ça avait rien à voir. Et non, ce qui était chiant, c'était que ça m'ait empêché de patiner ouais. à mon niveau, puis ça m'a empêché de faire la performance que j'avais travaillé, pour laquelle j'avais travaillé.
On avait l'impression que tout était réduit, du coup, toute votre performance ouais, sportive ça, et tout quoi. L'exploit sportif,
ouais.
qui en, c'est des, je veux dire, c'est des mois, des années de préparation, ouais, et que, ça. Bah finalement, tout le monde s'était juste contenté de parler de ça.
Un sein qui sort.
Ouais, voilà.
Ouais. Alors que t'as travaillé toute l'année pour réussir à faire tes twizzles, à faire tes trucs techniques et tout ça. Et puis là, ah, un sein qui sort.
Et du coup, vous, en tant que. C'est quoi vos objectifs? Parce que vous êtes quand même 5 fois champion d'Europe, 4 fois champion ouais. du monde. Tu te dis, même si vous êtes encore super jeune et que. Votre durée de vie dans ce sport-là, il peut être encore de plusieurs années. Qu'est-ce qui vous maintient encore comme ça et qui vous fait vous lever tous les matins, aller à la patinoire, commencer tous les ans un nouvel enchaînement, ouais. Nouvelle choré Vous êtes fixé des objectifs?
Oui, évidemment. Bah, maintenant qu'on est déjà 4 fois champion du monde, on n'a pas envie de perdre ce titre-là, ouais. C'est sûr. Je pense que, oui, au niveau sportif, on va dire que c'est plus de l'orgueil. Mais pas de l'orgueil, mais plus une... un peu de l'orgueil personnel en fait, on n'a pas envie de perdre quelque chose qu'on a en fait. C'est mais c'est pas forcément ça qui nous fait lever tous les matins, c'est pas ça. Ça nous aide à peut-être mentalement le jour de la compète à pas foirer, ouais. mais ce qui nous aide à nous lever tous les matins, c'est ça que dont je t'ai parlé, c'est la recherche artistique, c'est le fait de faire quelque chose qu'on a créé de zéro, dont on est fier, on a l'impression de créer quelque chose de beau. En fait, on travaille au service de la beauté et c'est ça qui nous fait lever tous les matins.
Et je vais faire la question journaliste à la con, mais et du coup, vous avez votre revanche à prendre sur les prochains Jeux Olympiques?
Notre revanche, ouais, oui, forcément, on a envie de les gagner, mais en même temps.
De toute façon, vous ne serez pas en compétition contre les Canadiens qui avaient gagné vu qu'ils ont arrêté leur carrière, dans
non,
tous les cas.
Non, c'est ça. Mais vous, il y a des tonnes et des tonnes d'autres patineurs.
Bien sûr,
et on aura j'imagine. Toujours de la compétition. J'imagine. Et puis, ce sera jamais gagné d'avance. Mais en même temps, oui, bien sûr qu'on a envie de les gagner. Mais en même temps, c'est pas pour ça qu'on continue de patiner. Puis, d'accord. C'est pas ça qui nous fait lever tous les matins, c'est sûr. Mais ça nous ferait chier si on ne gagne pas. C'est sûr. C'est sûr aussi.
Mais ça, on y croit, dur comme fer.
Ouais.
Je sais pas si t'avais vu, j'imagine. Il y a quelques mois, il y a un sondage Kantar fois TF1 qui est sorti sur les sportifs préférés des Français.
Ah ouais?
En activité. Et tu es number one!
Et
félicitations!
Ben oui. Et ben merci.
Tu l'as appris comment?
Moi, je l'ai appris parce que ma mère m'a envoyé un article, genre. Et puis moi, je me suis levée le matin, je t'ai endormie, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai toute la journée, j'étais genre en train de me demander, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon, sportif préféré, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Non, mais c'est vraiment cool. Je pense que c'est, en fait, c'est difficile de réaliser, en fait. J'ai aucune idée pourquoi j'ai été élue. Ça, c'est pas quelque chose. Je savais même pas que ce sondage existait, donc c'est pas comme si c'était quelque chose que j'avais envie de réussir ou quoi. Mais je pense que c'est génial parce que ça montre que le patinage a plus de visibilité que je croyais, en fait. Parce que que ce soit par moi ou par le patinage, que les gens s'y sont intéressés, ça montre que le patinage, finalement, c'est pas si inconnu que ça. Et moi, je trouve ça vraiment cool pour ça. J'étais très contente. Je me suis dit, putain, attends, mais c'est une sportive de patinage préférée qui a été élue number one.
Yes.
Donc, je pense que c'est surtout vraiment cool pour le patinage.
Tu te serais choisie?
Non, certainement pas, non. Absolument pas.
C'est quand même marrant parce que dans le sondage, donc t'es numéro 1 avec 28% des voix. Et derrière, en deuxième position, c'est Perrine Laffont qui fait du ski de boss.
Ouais, en plus.
Donc, tu vois, c'est quand même.
Deux sports d'hiver.
Enfin, là, le ski de boss en termes de médiatisation et de connaissances, je pense que c'est quand même, on est très très loin.
Ouais.
Bien plus qu'encore que le patinage. Ouais. Bon, après, effectivement, c'est des tenniswomen et des footballeuses. Donc là, bon, on peut se dire que c'est peut-être un peu plus logique.
Mais en fait, ça montre aussi, je pense, que à part certains sports comme le tennis, comme le foot, etc., les gens aussi s'intéressent aux sports où il y a des Français qui gagnent. C'est comme Martin Fourcade. Il a rendu sa discipline connue, mais je pense qu'à la base, c'était pas quelque chose auquel les gens s'intéressaient forcément. Il a rendu sa discipline connue parce qu'il avait beaucoup de résultats, puis ça a intéressé les gens. Et je pense que c'est ça aussi Perrine Laffont, et puis c'est ça aussi moi. Et puis ça montre aussi que avec des résultats aussi, ça, les gens s'intéressent à ça, s'intéressent au beau palmarès. Et puis c'est cool aussi qu'on ait, malgré que ce soit des sports qui soient pas connus, on arrive quand même, grâce à nos résultats, à ramener de l'intérêt, en fait.
Et pour rebondir là-dessus, mais il y a une question qu'on pose à toutes nos invitées. Ouais. C'est si tu devais choisir un moment de sport qui a été marquant pour toi, pas forcément dans ta carrière ou quelque chose que où t'as été spectatrice ou qu'est-ce que tu choisirais?
C'est difficile parce que je regarde pas beaucoup de sport.
Ou même une athlète. Ouais, une athlète qui t'a inspiré, toi. Ou un athlète, hein, c'est pas forcément une femme.
Ouais. Bah ouais, c'est sûr que j'ai grandi un peu. J'étais très petite, mais y avait Surya Bonaly. Je pense qu'elle a beaucoup, 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 beaucoup marqué le patinage et elle continue aussi de. Je pense que son influence continue d'avoir effet, je pense, sur le sport féminin, puis le patinage féminin, puis tout ça. Et je pense que elle est un peu immortelle pour ça. Ça m'a beaucoup marqué pour ça aussi. Par rapport à ce qu'elle représentait aussi. Je pense que même ça encore, c'est pertinent, alors que c'était il y a super longtemps, mais c'était une femme forte, musclée, de couleur. C'était l'inverse opposé des autres filles et puis de ce qu'on attendait du patinage. Et ce qu'on attend encore, c'est ça qui est triste. mais elle avait vraiment une belle... c'était une belle athlète, quoi. Avant d'être une belle patineuse, en fait, c'est ça qui l'a rendue une belle patineuse, mais c'est une belle athlète. Et ça manque encore dans le patinage aujourd'hui des belles athlètes. Et puis ça manque, en fait, c'est parce qu'on n'encourage pas ça assez. De la force, des muscles chez les femmes. Et c'est dommage. Parce que c'est beau. et plus récemment, on va dire que c'est, je pense, Javier Fernandez. Je pense qu'il est assez inspirant pour ça parce que. On parle de la France où le patinage c'est pas populaire, mais alors l'Espagne. L'Espagne, c'est alors c'est fou. Ah, c'est des millions. Il y a personne qui regardait ça avant, quoi. Mais vraiment, mais littéralement personne. Il y a pas vraiment de centre en Espagne. L'Espagne, c'était vraiment pas du tout un truc populaire. Et le truc, c'est qu'il a rendu le sport populaire, mais alors à une vitesse. Puis genre maintenant, il est presque aussi connu que les joueurs de foot là-bas. Enfin, c'est hallucinant. Cet hiver là, vers Noël, on est allé participer en fait à un spectacle que lui il organisait, et c'était dans une arena à Madrid. Il y avait des milliers, des dizaines de milliers, de milliers, de milliers de spectateurs pour voir Javier, en fait. C'est devenu une pop star, puis il a rendu le patinage tellement populaire, en fait, que c'est hallucinant. Puis en plus, ça a été sold out tellement rapidement qu'ils ont fait une deuxième date à Madrid le lendemain, et ça a presque été sold out aussi. C'est hallucinant. Je sais pas combien il y a eu, mais il y a peut-être eu 100 000, plus de 100 000 spectateurs en deux dates. Et tu vois pas ça en France. En fait, tu vois ça dans aucun autre pays, à part peut-être le Japon et la Russie. Mmh. Et ça, je pense que c'est hallucinant. Et je me souviens quand il a gagné ses premières compétitions, les premiers championnats du monde, championnats d'Europe et tout. En fait, c'était hallucinant de voir un Espagnol comme ça se hisser à la première place, puis rester. Je pense qu'il combien de fois, 7 fois champion d'Europe, un truc comme ça, je sais même plus, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant, pas parce que, évidemment, parce qu'il est bon et tout, mais d'avoir réussi
à ériger son
pays dans le sport aussi, alors que c'était un pays qu'on voyait jamais dans les patineurs avant. Je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ouais.
Ouais. Ok, j'avais une petite question un peu rigolote aussi. Ça, c'est mes trois lectures du moment.
Oh. Ok.
Hop. Voilà, on s'est dit, ça allait être la petite question un peu. Je lis ces trois bouquins en ce moment.
Ouais. J'ai lu beaucoup de livres sur ce sujet aussi.
C'est vrai. Voilà. Ouais. je le dis parce que vous ne voyez pas les livres, on vous les publiera pour que vous puissiez voir ce que je lis en ce moment. Donc il y a le best-seller de Roxane Gay qui s'appelle Bad Feminism, féministe. Il y a un autre livre qui est un peu plus sur une thématique un peu différente d'Esther Perel qui s'appelle Je t'aime, je te trompe, avec en dessous marqué Repenser l'infidélité pour réinventer son couple. Ouais. et un troisième livre de Lauren Kendall. Alors je vais peut-être désolée, j'ai mal le prononcer, mais Lauren Kaltenbach et Clémentine Portier-Kaltenbach, qui s'appelle Championne, et c'est sur des histoires de femmes dans le sport qui ont été des pionnières dans leur discipline et qui ont été des femmes sportives dont on ne connaît d'ailleurs souvent pas l'histoire. Si tu devais choisir un livre, tu prendrais lequel et pourquoi ?
Bad Feminist, je l'ai pas lu. Mais j'ai vu des conférences, beaucoup de conférences de Roxane Gay.
We are not just women. We are people with different bodies, gender expressions, faiths, sexualities, class backgrounds, abilities, and so much more. We need to take into account these differences and how they affect us as much as we account for what we have in common. Without this kind of inclusion, our feminism is nothing.
Ouais. Et plusieurs fois j'ai voulu lire le livre, mais j'ai jamais trouvé. Enfin, à Montréal, j'ai jamais trouvé en français, puis j'avais un peu la flemme de lire en anglais.
Ouais.
Donc finalement, j'ai jamais acheté, mais j'aurais pu le lire. Oui, ça m'intéresse. Après, il y a Je t'aime, je te trompe, repenser à la fidélité pour réinventer son couple. J'ai lu des dizaines de livres sur ce sujet. J'ai pas lu celui-là, mais j'en ai lu des dizaines. Donc
c'est une thématique qui t'intéresse ?
Oui, beaucoup.
C'est vrai ?
Oui. Et donc je pense que je choisirais Championne parce que ça me parle pas du tout. Je l'ai jamais vu. Je pense que j'ai pas lu de livres similaires, donc je pense que je choisirais celui-là. Ouais. Okay. Elles ont conquis l'or, l'argent, le bronze. Ouais, non, je choisirais celui-là, c'est sûr.
Je te conseille, c'est hyper intéressant, et c'est là qu'on se rend compte que là, c'est souvent des histoires qui dans les années 1900, dans les années 1800, et que c'était compliqué.
Ouais, je pense que je vais le lire.
C'est hyper inspirant. Et enfin, ma dernière question pour clore cette interview, qui est la question qu'on pose à chaque fois à la fin.
Okay.
Le podcast s'appelle Champion du Monde. Oui. Tu es Champion du Monde.
Oui.
Notre Champion du Monde, notre vision de la Championne du Monde est très vaste, pour le coup. Toutes les femmes sont plus ou moins des Championnes du Monde à nos yeux.
Oui.
Donc toi, tu l'es vraiment. Mais quelle est du coup ta définition d'une championne ?
C'est clairement un état d'esprit, en fait. Que ce soit dans le sport ou ailleurs, je pense que c'est clairement un état d'esprit. Puis c'est plus avoir cultiver cette force mentale de toujours vouloir se dépasser. C'est ça, je pense.
Pour clore cette interview, si tu devais choisir une musique qui nous accompagnerait sur cette fin d'interview, ce serait quoi ?
D'abord parce que j'aime le jazz, puis parce que j'aime la féminité. Je vais dire Four Women de Nina Simone.
Merci beaucoup, Gabriella.
Merci à toi.
Merci pour ton temps et merci pour cette conversation qui était très intéressante. Et j'espère que ça pourra peut-être aussi ouvrir l'esprit ou en tout cas faire réfléchir un petit peu ce qu'on s'est dit pendant cette interview-là.
Oui. Oui.
Merci beaucoup et puis bonne continuation à toi.
Merci beaucoup.
Salut. My skin is black. My arms are long.